Vous écoutez France Culture.
Dime que son los secretos de tu alma. Dime cuál es el camino de tu divino amor.
Les racines du ciel. Une émission de Frédéric Lenoir et Lélie Anvard, réalisée par Clotilde Pivin, préparée par Marie Dalquier, avec à la prise de son Catherine Déréthé. Aujourd'hui, nous recevons Olivier Roriche pour parler du bouddhisme au quotidien. Olivier Roriche, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Lélie.
Bonjour. Alors, Olivier Roriche, vous êtes au départ mathématicien, on peut le dire, hein, puisque vous êtes ancien élève de l'école normale supérieure et que vous avez intégré en mathématiques. Et vous êtes aujourd'hui professeur de classe préparatoire aux grandes écoles scientifiques. Mais vous êtes surtout, après l'avoir rencontré à l'âge de 24 ans, l'un des principaux disciples de Sogyal Rinpoché et son interprète attitré en France depuis plus de 30 ans,
tout
donc
fait,
maintenant.
Oui.
Sogyal Rinpoché qui est un lama tibétain. Donc.
Absolument, j'allais y venir, qui est un lama tibétain, qui a écrit un livre très célèbre en fait et très, très lu, le livre tibétain de la vie et de la mort. Et en fait, vous avez donc rencontré Sogyal Rinpoché et ça a changé complètement votre vie. Et vous venez de publier aux éditions Albin Michel « La voie du bouddhisme au fil des jours, être, aimer, comprendre », livre dans lequel vous expliquez à quel point pour vous la voie bouddhiste, la voie bouddhique, je ne sais pas comment il faut le dire, est en réalité une pratique quotidienne qui permet de se transformer et éventuellement, par cette transformation, transformer aussi le monde autour de soi.
Alors effectivement, nous n'allons pas parler du bouddhisme, des nobles vérités, etc. Nous allons parler de l'application du bouddhisme dans votre vie, tel que vous en parlez dans ce livre. Mais avant, je voudrais que vous nous racontiez un petit peu votre propre parcours. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous êtes devenu bouddhiste ?
Oui, moi j'ai été élevée dans des milieux d'intellectuels de gauche qui étaient très engagés politiquement, qui avaient des idées très généreuses, qui souhaitait vraiment le bonheur de l'humanité. Il y avait, je me rappelle, des discussions à la maison sur ce sujet-là. Et bon, j'ai vécu dans ce milieu, d'ailleurs athée, anticlérical aussi, libre penseur. Et après mes études, vers la fin de mes études scientifiques, je me suis retrouvée complètement démunie parce que je sentais qu'en fait, il me manquait des clés fondamentales pour la vie. C'est-à-dire que, bien sûr, le bonheur universel, ça c'était magnifique, mais concrètement, comment faire ? Et donc, j'étais vraiment dans une sorte de crise existentielle importante. Et en même temps, un peu avant de rencontrer le bouddhisme, j'ai rencontré des chrétiens très lumineux, très vraiment habités par une foi incroyable. Et ça m'a complètement ouvert la dimension spirituelle. Je me suis aperçu qu'il y avait quelque chose, effectivement, qui était du domaine de l'amour universel, de la clarté universelle.
Pourquoi vous n'êtes pas devenu chrétien ? Qu'est-ce qui fait que vous êtes devenu bouddhiste ?
Bonne question. Et j'ai failli le devenir. Je suis resté pendant 2 ans fréquenter beaucoup des communautés chrétiennes, en particulier la communauté de l'Arche de Lanza del Vasto, en fait, qui donc étaient c'était des gandiens non violents. Mais il y avait beaucoup de chrétiens, en fait. Et au départ, je pensais continuer dans cette voie. Et ce qui me manquait là-bas, c'est 2 choses, c'est les outils. Les outils pour transformer l'esprit. Parce que c'est bien beau de dire, bon, voilà, on va aimer son prochain comme soi-même, on va, etc. Mais bon, comment faire quand on n'aime pas le prochain ? Comment faire quand on a des tas d'émotions négatives, quand on est jaloux, quand on n'aime pas soi-même, quand on est jaloux, quand on est dans l'insécurité ? Comment faire ? Et là, je manquais personnellement d'outils. Attention, je parle à la première personne. Hein. Je pense que le christianisme, c'est extraordinaire pour des millions de gens et c'est formidable.
Mais non, mais je crois que vous avez raison. Il y a peu d'outils pratiques de transformation de soi qui sont donnés.
Je vais vous raconter une anecdote. Je me souviens un jour dans cette communauté où ça se passait, c'était assez difficile, l'ambiance était lourde. Et j'ai dit, mais comment on va faire pour transformer ça ? Et quelqu'un m'a dit, tu sais Olivier, on a un mal en nous qu'on gardera jusqu'à la mort. Et là, je me suis dit, je m'en vais. Parce que moi, je veux trouver quelqu'un qui m'enseigne comment transformer l'esprit dans cette vie. Et pas attendre un salut dans l'au-delà. Donc c'est, ça a été déterminant pour moi. Et ensuite, donc, je me suis mis en quête de quelqu'un qui puisse m'enseigner ça, d'une voix. Et c'est vrai que j'ai trouvé dans le bouddhisme, tout de suite, avec ce Gyalrin Rinpoche qui parlait anglais, qui parlait notre langue, des gens, quelqu'un qui pouvait m'expliquer un petit peu, de me donner des clés qui pouvaient me transformer.
Et alors, Sogyal Rinpoche, vous l'avez, dès que vous l'avez rencontré, c'est devenu votre maître spirituel ou il a fallu un peu de temps pour que vous engagiez sur ce chemin ?
Moi, je crois que surtout, on parle beaucoup de maître, etc. Mais je crois que le vrai maître, c'est l'enseignement avant tout. C'est-à-dire quand on rencontre un enseignement qui nous parle, qui nous montre des vérités, qui nous montre un chemin et qui nous montre un moyen de nous libérer, eh bien, en fait, c'est ça qu'on suit. C'est surtout cet enseignement. Et le grand mérite de Sogyal Rinpoche, c'était d'être un interprète extraordinaire de cet enseignement bouddhiste, parce qu'il avait à la fois la sagesse ancienne du bouddhiste, du Tibet, et en même temps la connaissance de l'Occident. Il y a un de cette génération de maîtres des années 60, Chogyam Trungpa en était un autre, qui ont su faire un pont extraordinaire entre l'Orient millénaire et puis l'Occident moderne.
Oui, et d'ailleurs, c'est peut-être... une prévention, en tout cas une remarque qu'on pourrait faire en vous lisant, c'est qu'on a quand même l'impression que c'est un bouddhisme extrêmement occidentalisé duquel vous parlez. Parce que, en effet, ce pont a été fait, mais c'est vrai que tout l'aspect de la religiosité bouddhiste, finalement, dans ce transfert de l'Orient vers l'Occident, a disparu. Que ce soit les aspects à proprement parler de rituels ou même des croyances. Enfin, il y a énormément de choses dans le bouddhisme qui font que le bouddhisme, pour les Occidentaux, en fait, est une philosophie, mais pour les gens qui sont nés bouddhistes depuis des siècles, c'est quand même une religion. C'est un lieu communautaire, de partage, de rites, etc. C'est peut-être juste le seul reproche qu'on pourrait faire dans le fait que vous appeliez cette voie, finalement, la voie bouddhiste. Mm-hmm. Parce que c'est presque plus une voie de la sagesse universelle qu'une voie à proprement parler bouddhiste.
Ah si, si, parce qu'il faut distinguer entre bouddhisme profond, la véritable sagesse bouddhiste qui est complètement intemporelle et acculturelle, qui est une connaissance de l'esprit, de l'être, de la nature profonde de l'être, qui est totalement au-delà de toute culture et de toute tradition. Et puis ces différentes incarnations du bouddhisme, les formes qu'elle a prises en fonction de l'histoire, de la culture, des pays où elle est arrivée. Et le bouddhisme s'est toujours adapté en quelque sorte, un peu comme l'eau qui s'adapterait en arrivant dans un lieu, de façon très souple, très flexible, aux cultures qu'elle rencontrait. Elle ne s'est jamais opposée aux cultures, elle les a plutôt adoptées. Et c'est vrai que dans certains pays, elle a, à cause de ça, adopté certaines formes apparemment religieuses ou culturelles. Mais en réalité, si on comprend très bien la réalité, et ça je tiens vraiment à le dire, la notion, c'est très très différent d'une religion, par exemple occidentale, dans le fait qu'on ne rend pas un culte en une entité qui est extérieure à soi-même. Si vous marquez des marques de respect pour une magnifique statue du Bouddha en Inde, en réalité, ce que vous faites, c'est que ce que vous considérez, c'est le Bouddha en vous-même. C'est-à-dire la statue du Bouddha devient un miroir qui inspire une sérénité et un état d'être personnel. Donc il n'y a pas eu comme une dualité entre moi qui serais misérable, qui serais pauvre, un pauvre être ignorant, et un Bouddha qui serait parfait. Ça, c'est un peu la vision, disons, ordinaire. Mais en réalité, il n'y a pas de dualité entre moi et le Bouddha.
Alors, ce que vous dites, c'est juste d'un point de vue spirituel profond. Mais c'est vrai que la religiosité populaire vit les choses autrement. Oui. Hein. Il y a une dualité très claire. Oui. On finit par vénérer le Bouddha comme une sorte de déité auquel on rend hommage pour avoir des bienfaits, etc. Donc ce que vous dites, c'est très juste. Mais pour reprendre ce que dit Lélie, c'est vrai qu'il y a toute une religiosité populaire qui existe dans toutes les religions. D'ailleurs, il y a un décalage souvent entre la conception la plus élevée spirituellement, mystique ou philosophique, et puis la religiosité populaire. Mais pour revenir donc à votre propos, qui est celui justement de nous parler d'un bouddhisme acculturé à l'Occident, dans lequel le but finalement, c'est d'essayer de s'épanouir, c'est d'essayer d'être heureux. Quel est l'objectif que vous donneriez, vous, à votre vie aujourd'hui?
Moi, l'objectif, voilà, ça c'est vraiment la question clé. Je crois que l'objectif que je me donne et que tout pratiquant du bouddhisme va se donner, c'est de trouver le bonheur pour tous les êtres, donc pour soi-même et pour les autres. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire développer pleinement son potentiel d'amour et d'intelligence, de créativité qui est en soi. Pour ça, apprendre à s'aimer soi-même, à se réconcilier avec soi-même. Et puis, bien sûr, apporter ça dans son entourage, apporter ça dans le monde entier. Donc, travailler à la paix dans le monde en exportant en quelque sorte cette idée d'altruisme, d'amour, de sagesse dans le monde entier. Donc il y a à la fois un aspect de bonheur individuel, du bonheur de notre entourage et du bonheur de tous. Et aussi quelque chose qui dépasse, je pense qu'on en parlera un peu plus tard, seulement cette vie-ci. C'est-à-dire, ce n'est pas juste être heureux maintenant, se sentir bien sur le moment, c'est beaucoup plus vaste que ça. C'est trouver la véritable réalité de notre être qui dépasse en réalité uniquement le moment.
Oui. Alors, vous disiez tout à l'heure à propos du christianisme que vous n'aviez pas les outils pour arriver à une finalité. Même. Mais quels sont les moyens qui vous ont permis déjà vous-même de progresser?
Disons que la première chose qu'on vous dit quand vous arrivez dans un centre bouddhiste, il y a des coussins qui sont là, qui sont très bien disposés. On vous propose de vous asseoir. On vous apprend les rudiments de la méditation. Et on vous dit, assieds-toi, pose ton esprit. Arrête pendant un instant le flot des pensées et des émotions qui d'habitude sont complètement continuelles et qui brouillent toute ta clarté mentale. Pose-toi un moment et progressivement, en faisant ça, un petit peu, tous les jours, périodiquement, tu vas te découvrir toi-même. Et après, on ne vous dit rien d'autre. Et c'est vous qui pratiquez. Et on ne vous demande de croire en rien. On vous dit simplement, découvre-toi. Et en fait, ce que j'ai découvert moi personnellement, c'est quand j'ai fait ça, puisque je l'ai fait vraiment dès que j'ai découvert Sayadaw Rinpoché, c'est que d'une part, évidemment, déjà, on arrive à calmer son esprit, ce qui est extraordinaire. Mais aussi, on rentre en contact avec une dimension plus profonde de son être. Et on s'aperçoit qu'au-delà de toute cette agitation mentale qui finalement nous rend très fébrile et nous rend souvent très insécure, eh bien, il y a une dimension d'être qui est toujours là et qui est une plénitude intemporelle qui est toujours là et qui est en fait à un bien-être extraordinaire pour soi, mais aussi à partager avec tous. Et très concrètement, il m'arrive souvent après une méditation, par exemple, quand je me relève et que je vais parler à des gens, je vais vivre dans la société, eh bien, d'être incroyablement plus en contact avec l'autre, beaucoup plus à l'écoute, beaucoup plus présent, dans le vrai sens du terme. Et ça, c'est vraiment une chose extraordinaire que le bouddhisme
a apporté. Oui, c'est un point que vous expliquez bien dans votre livre, c'est la qualité de présence que vous avez appris à vivre. Et du coup, ça change tout, parce qu'effectivement, qu'on est présent à soi-même, à ce qu'on fait, aux autres, on est dans une qualité d'être et de vie.
De relationnel, parce que, je sais pas, j'avais beaucoup expérimenté, avant de rencontrer le bouddhisme, cette espèce de discordance dans la relation. C'est-à-dire, d'un côté, j'avais envie d'être proche de quelqu'un, mais quelque part, ça ne se produisait pas. C'est comme si ma personnalité et celle de l'autre ne s'enclenchaient pas. Et finalement, je me retrouvais assez seul, du coup. Et je crois que c'est une expérience qu'on fait souvent. Quelquefois, c'est assez tragique parce qu'on l'a fait même en famille. Quelquefois, les gens les plus proches de nous semblent éloignés. Et c'est très dur. On les aime, mais en même temps, on sent qu'ils s'éloignent. Ce que le bouddhisme vous dit, c'est qu'en fait, pour retrouver le contact, en fait, il ne faut pas ajouter quelque chose, il faut enlever quelque chose. Il faut lâcher quelque chose. Et ce qu'on va lâcher, c'est cette espèce d'oppression mentale, d'agitation mentale qu'on a constamment. Et par la pratique de la méditation, vous arrivez à un état où naturellement le contact se fait.
Alors, est-ce qu'il se fait aussi avec celui qui n'est pas dans ce lâcher-prise et dans cette démarche? C'est ça qui est très intéressant. Vous donnez quelques cas pratiques. Ce qui est vraiment très intéressant dans votre livre, c'est ça. C'est les cas pratiques où, par quelle alchimie étrange, le fait que vous enleviez justement ces scories et que vous entriez dans la relation, fait que l'autre aussi, alors qu'il n'a pas fait le même travail, peut entrer dans ça.
Eh bien, je vais vous dire, le secret, c'est que l'autre est un être humain. Et que de toute façon, le bouddhisme ne se définit jamais comme supérieur à personne. Moi, je me vis pas comme bouddhiste au quotidien. Quand je suis avec quelqu'un, je suis avec un être humain. Et le contact se fait naturellement. Parce que le message fondamental du bouddhisme, c'est qu'on a tous cette nature d'amour et de sagesse. Donc il suffit simplement d'être présent, de s'arrêter, d'écouter, d'être présent à l'autre. Et en fait, les choses s'enclenchent naturellement. Et complètement au-delà de toute idéologie, de toute croyance. Ça n'a rien à voir.
Ce que vous nous expliquez, c'est que le fait d'être soi-même dans une qualité de présence amène l'autre aussi à cette présence.
Vous savez, je vais vous donner un exemple. On travaille beaucoup dans les hôpitaux, avec des gens qui sont malades ou en fin de vie. Et les maîtres bouddhistes vous disent, c'est pas ce que vous dites, c'est pas ce que vous faites qui compte, c'est votre qualité d'être qui compte. Et c'est vrai que quand on a pratiqué, et qu'on arrive dans la chambre d'un malade, ou même avec quelqu'un qui est en détresse, il y en a beaucoup dans la vie, eh bien, on a une qualité de présence qui fait que les gens sont touchés. Ils sont touchés parce qu'ils se sentent écoutés, et ils se sentent écoutés inconditionnellement. Sans peur, sans mettre de barrière, sans couper la parole, sans vouloir les orienter. C'est comme une sorte d'accueil inconditionnel, comme une limpidité, vous voyez. Et ça, les gens, surtout les gens qui sont dans un état de grande vulnérabilité, en fin de vie ou en détresse, sont extrêmement sensibles. Qu'est-ce qu'on souhaite de plus quand on souffre que quelqu'un qui est là, qui nous écoute, qui ne juge pas et qui est complètement ouvert et complètement présent. Et ça, j'aime beaucoup, à chaque fois que ça se produit, je trouve ça extraordinaire parce que c'est exactement ce que vous dites, c'est-à-dire que ce n'est pas bouddhiste, ça. C'est universel. C'est simplement un être humain avec un autre être humain.
Alors, vous avez parlé du fait que ça a commencé pour vous par la pratique de la méditation, dont on a plusieurs fois d'ailleurs parlé dans cette émission, et dans vos encadrés aussi, parce que le livre est fait d'une introduction poétique, mm-hmm. avec la métaphore du randonneur qui monte vers les cimes. Et puis après, il y a différents chapitres sur différents mm-hmm. sujets, évidemment, mm-hmm. pratiques, toujours expérimentaux et pratiques. Oui. Et puis, il y a des petits encadrés. Qui sont des exercices, en fait, que vous proposez. Et ça commence, si je vous ai bien lu, ça commence toujours, en fait, même une pratique qui doit après se faire dans la société, vous la commencez toujours par un temps de méditation. C'est-à-dire qu'il y a toujours d'abord un travail personnel, intériorisé. Et donc la méditation est quand même très importante, très centrale. Oui. Vous venez de dire que c'est comme ça que vous avez commencé.
Oui. Oui, mais le mot méditation est trompeur. Parce qu'il donne, on pense beaucoup aux méditations de Descartes chez nous, donc rentrer dans une sorte d'activité mentale assez intense, assez sérieuse. C'est comme ça que les gens s'imaginent et souvent ils disent la méditation c'est pas pour moi, moi j'ai envie d'être spontané, j'ai envie de vivre, qu'est-ce que je vais aller méditer ? Et ils ont bien raison, parce que ça c'est vraiment une fausse conception de la méditation. La méditation c'est simplement lâcher son esprit, laisser son esprit. Pendant un moment, laisser et ne pas continuer à agiter. Il y a une très belle métaphore dans le bouddhisme qui est si vous avez un verre d'eau boueuse, si vous l'agitez, il ne s'éclaircira jamais, vous n'y verrez jamais rien. Si vous le laissez, votre esprit, eh bien sa clarté va se manifester. Et c'est juste ça. Et c'est le début de toutes les pratiques, parce que sans cette étape initiale, finalement, on reste dans la confusion.
Et en même temps, ce n'est évidemment pas suffisant, bien que ce soit central. Alors je vous ai apporté un petit conte qui est extrait des Contes des sages zen de Pascal Folieu, d'ailleurs, que nous avions reçu en début de saison ici. Et ça s'appelle « Le polissage de la tuile ». Matsu était entré très jeune dans un monastère où enseignait un disciple du 5e patriarche. Avant même ses 20 ans, il avait été ordonné moine. À la mort de son maître, n'ayant toujours pas atteint l'éveil, il décida de vivre en ermite sur le mont Nanyue, l'une des cinq montagnes sacrées de la Chine, afin de se consacrer à la méditation intensive. Il restait en zazen la plupart du temps, ne se levant que pour ses besoins et pour aller mendier. Sur cette montagne était bâti le monastère de la sagesse transcendante, dont le supérieur était Hunijang, successeur de Huineng. Au cours de ses promenades, l'abbé avait souvent aperçu ce méditant solitaire qui faisait preuve de détermination. Un jour, il s'approcha de l'ermitage et demanda « Ô ardent pratiquant, quel est ton but en demeurant constamment assis ?»« L'état du Bouddha, déclara l'ascète, les yeux mi-clos, sans quitter sa posture. » Le maître amassa une tuile et se mit à la frotter avec une pierre. Agacé par le crissement, Matsu desserra de nouveau les dents. « Mais que faites-vous avec cette tuile ?» Avec des yeux pétillants de malice, Huaijing répondit « Je la polis pour en faire un miroir. » Le jeune homme haussa les épaules et secoua la tête en s'exclamant « C'est ridicule, comment pouvez-vous espérer y parvenir ?»« Et toi, comment espères-tu atteindre l'éveil en restant assis ?»« N'est-ce pas la bonne méthode pour arrêter ses pensées ?» dit le disciple. « Tu es comme le cocher qui fouette le char plutôt que le bœuf pour faire avancer l'attelage. » Interloqué, le jeune moine ne sut quoi répliquer et le maître poursuivit « Crois-tu pouvoir imiter le Bouddha en restant en zazen ?» La voie se poursuit à l'infini sans jamais demeurer en rien. Si tu t'attaches à la méditation assise, tu tues le Bouddha. L'éveil n'a pas de posture déterminée. Le nectar de ses paroles profondes coula dans le cœur du méditant. Il se prosterna devant le maître et demanda « Veuillez m'éclairer davantage, quelle attitude de l'esprit faut-il rechercher ?» L'œil du Dharma ne se fixe nulle part, ne s'attache à rien et il pénètre toute chose. Matsu s'ouvrit soudain à un autre plan de conscience. Il entra dans un profond samadhi et Huangji récita ce poème. La terre de l'esprit recèle une graine qui germe quand vient l'onde céleste. La fleur de Samada pousse au-delà des couleurs et des formes, libre du samsara. Et le proverbe zen dit, s'il suffisait de rester assis en méditation pour obtenir l'éveil, il y a longtemps que les grenouilles seraient illuminées.
Magnifique. Et tout à fait juste, hein, vraiment. Parce que la méditation, voyez-vous, n'est pas une technique, en fait, dans le bouddhisme. Au départ, à l'état initial, c'est une technique. Parce que comme l'esprit est tellement agité qu'il faut quand même une posture, une méthode pour se poser un petit peu. Mais en réalité, ce qu'on cherche à découvrir, c'est un éveil qui est déjà là. Et c'est ça, la bonne nouvelle. On pourrait dire que la bonne nouvelle du bouddhisme, c'est que la bonté fondamentale, la clarté de l'être, elle est déjà là. On est déjà en réalité des Bouddhas, on est déjà éveillé. La seule chose qu'on a à faire, c'est de le réaliser simplement. C'est de s'ouvrir à cette dimension de l'être qu'on a oubliée dans l'agitation des pensées, des émotions habituelles. Donc une fois qu'on a calmé notre esprit par la pratique de méditation, il n'y a plus rien à faire. Il y a juste à être, au sens le plus profond du terme. Et ça, c'est une chose que les grands maîtres vous montrent.
Vous êtes sur France Culture dans l'émission Les Racines du Ciel en compagnie d'Olivier Roriche à l'occasion de son livre La Voix du Bouddhisme au fil des jours chez Albin Michel. Donc nous parlons du bouddhisme au quotidien. Vous venez de nous parler de ce que peut apporter la méditation pour développer cette qualité de présence et puis révéler ce que vous nous disiez, qu'il y a en nous une joie, qu'il y a en nous une sérénité, une lumière et un amour profond. Et finalement, la pratique du bouddhisme aide à révéler cet état qui est déjà présent. On peut retrouver ça, d'ailleurs, on a parlé de Spinoza il n'y a pas longtemps, c'est exactement ce qu'il dit, c'est que la joie est là et il faut simplement enlever tous les obstacles. Alors, on va parler des moyens toujours qui aident à enlever les obstacles. En dehors de la méditation, est-ce qu'il y a d'autres techniques, d'autres outils qui peuvent vous aider à faire ce travail qui permet d'être pleinement soi-même dans cette dimension la plus profonde?
Je mentionne dans mon livre la pratique de l'amour bienveillant, cette pratique de metta là, qui a été enseignée par le Bouddha. On peut peut-être raconter l'histoire de sa naissance, cette pratique. Hein. Le Bouddha a envoyé un groupe de moines méditer dans une forêt la nuit. Les moines sont arrivés et en fait, il y avait des esprits de la forêt qui étaient très mécontents de la venue des moines et qui se sont mis à apparaître sous forme de toutes sortes d'apparences effrayantes pour les éloigner. Donc les moines ont été effrayés, ils sont revenus voir le Bouddha et lui ont dit « Écoutez, on veut bien méditer, mais pas dans cette forêt-là. » Et le Bouddha a dit « Si, vous allez retourner demain soir dans la même forêt, mais je vais vous donner la seule arme dont vous ayez besoin contre la peur. » Et il leur a donné cette pratique de l'amour bienveillant qui consistait à répéter silencieusement ces phrases « Puissiez-vous être heureux, puissiez-vous être bien, puissiez-vous être en sécurité ?» Juste mentalement émettre cette pensée. Et donc les moines y sont retournés et ils ont émis cette pensée de bienveillance à l'égard des esprits. Et l'histoire raconte que les esprits ont été tellement touchés que pour la première fois quelqu'un leur témoigne cette bienveillance qu'ils se sont transformés en fait en protecteurs de la communauté. Et j'aime bien cette histoire parce qu'elle est d'apparence exotique, mais elle n'est pas du tout exotique en fait. Parce que dans nos grandes villes, dans notre société, on a beaucoup d'ambiances tout à fait effrayantes et tumultueuses et conflictuelles. Et, On peut avoir peur. L'insécurité est une réalité universelle, quotidienne. Et là, ici, l'outil, c'est l'amour. C'est l'amour qui va servir d'antidote contre la peur. Et comment on commence cette pratique? C'est simplement, dès qu'on sent qu'on est dans une situation un peu dérangeante, conflictuelle, puissiez-vous être heureux, puissiez-vous être bien, puissiez-vous être en sécurité. Juste souhaiter ça. Je le fais souvent dans la vie courante. Alors, j'ajouterais quand même que cette pratique, on peut la faire aussi sur soi-même. C'est-à-dire, on peut dire, puissais-je être heureux, puissais-je être bien, se souhaiter à soi-même du bonheur. Et ça, quand je l'enseigne quelquefois dans des séminaires, dans des retraites, les gens ont beaucoup de mal à le faire. Ils disent, finalement, on a plus de facilité à souhaiter du bonheur aux autres, parce que dans notre culture, on nous a toujours dit, fais plaisir aux autres. Mais par contre, s'aimer soi-même, en fait, quelque part, il y a comme une espèce de réticence, on se sent un peu gêné. Et alors qu'en fait, les maîtres bouddhistes enseignent beaucoup ça.
Donc une des clés pour révéler cette bienveillance, cet amour, cette compassion qui est en nous, c'est donc le souhait, c'est la pensée, c'est l'intention, le souhait qui va permettre d'activer ce qui est présent, mais ce qui est latent ou caché par toutes les peurs, etc. Est-ce qu'il existe, par exemple, des formes de prière ou de mantra, etc., qui activent cette dimension-là?
Tout à fait. Il y a cette dimension de, dans le bouddhisme tibétain en particulier, il y a l'aide des représentations symboliques du Bouddha ou d'autres grands maîtres, et aussi des mantras. Mais ce qui est très intéressant, c'est que là, c'est pas du tout l'invocation d'entités extérieures à nous-mêmes. C'est simplement des énergies d'éveil qui sont en nous, mais qu'on va dévoiler, qu'on va révéler par ces pratiques-là. De la même façon, si vous voulez, que si vous entendez du chant grégorien ou un chant sacré extraordinaire, vous allez vous sentir élevé. Et cela indépendamment de votre religion, de votre appartenance, simplement parce que ça va toucher des énergies d'éveil. Et donc, effectivement, la pratique du mantra, la pratique de l'invocation aussi, sont des pratiques qui sont très, très utiles pour dévoiler ce cœur de l'éveil en nous.
Oui, parce qu'on voit dans le bouddhisme tibétain qu'il y a beaucoup de prières vis-à-vis de bodhisattvas, ouais, de la compassion, ouais, etc., qu'on prie finalement pour activer ce qui
c'est
est
ça,
en
parce qu'en fait, c'est Bouddha. Ce qu'il faut comprendre, c'est que surtout chez les Tibétains, vous voyez, nous, en Occident, on fonctionne beaucoup par concept, liberté, bonheur, etc. Les Tibétains, ils fonctionnent par l'image. C'est-à-dire que la compassion va être représenté non pas sous la forme d'une philosophie ou d'une théorie, mais d'un Bouddha, avec des ornements splendides qui chacun signifie une des qualités de la compassion. La guérison va être symbolisée par Vajrasattva, qui est un Bouddha blanc, lumineux, etc. Et en fait, quand on se relie à ces entités-là, c'est en fait un moyen habile, simplement pour... C'est comme toujours l'effet de miroir. Hein, on va en fait être toucher nos propres énergies. De la même façon que si vous regardez le Dalai Lama à la télévision et que ça vous fait un bien incroyable, eh ben, ce n'est pas le Dalai Lama qui est en cause. Le Dalai Lama, il n'a fait que simplement éveiller en vous le cœur de cet amour qui était endormi.
Finalement, toutes les spiritualités et les religions en reviennent toujours à cette question de la forme. Même ceux qui refusent les formes anthropomorphiques, oui, il faut bien qu'il y ait une forme. Dans les mosquées, il y a bien des formes géométriques, par exemple, qui ont un peu la même fonction que les mantras. Parce que l'esprit humain ne peut pas imaginer l'abstrait, en quelque
absolument,
sorte. C'est aux mathématiciens là que je m'adresse.
Mais justement, c'est un peu aussi pour ça que j'ai abandonné les mathématiques. Au départ, je voulais être chercheur dans le domaine de la relativité générale et de la cosmologie pour connaître les secrets de l'univers. Et j'ai vite compris que ce n'était pas avec des formules, aussi complexes soient-elles, que j'allais comprendre quelque chose. Ça m'est apparu vraiment d'une façon énorme quand j'étais plus jeune. Et c'est vrai que les Bouddhas, les représentations, les enseignements, ces mantras, tout ça, ce sont des symboles qui vont nous guider vers nous-mêmes. Et on a besoin de symboles parce qu'on est incarné. Nous sommes des êtres humains avec deux jambes, deux bras, une voix, une parole, une pensée. Donc on a besoin d'utiliser ces outils-là pour accéder à cet éveil. Mais l'éveil lui-même, il est totalement au-delà de toute représentation conceptuelle ou culturelle. Il est universel, intemporel, c'est un état d'être bien. Mais par contre, pour y accéder, oui. Et c'est là que justement s'inscrit mon livre, c'est que je pense, moi, qu'on est en train, en ce moment en Occident, on est dans la génération de transition. Les maîtres tibétains sont venus dans les années 60-70, ont enseigné pendant 30-40 ans. Et maintenant, il y a toute une génération dont je fais partie, de pratiquants qui vont pouvoir, disons, trouver aussi des symboles adaptés à l'Occident.
Mais alors, là, on rentre sur une autre question. C'est que le psychologue Jung avait fait remarquer que les symboles adaptés à l'Occident, c'est des symboles chrétiens.
Oui.
C'est-à-dire que l'Occident a une culture chrétienne qui a marqué profondément son histoire, l'inconscient collectif. Et il disait, au fond, on ne peut pas véritablement changer ces symboles-là. C'est-à-dire comme on ne peut pas changer de culture. Mmh. Et donc, finalement, est-ce que le symbole qui représente, entre guillemets, ouais, la compassion, l'amour dans la tradition occidentale, c'est le Christ.
Oui.
Moi, j'ai rencontré un certain nombre de pratiquants tibétains qui m'ont dit, après avoir essayé de faire des pratiques à Milarepa et autres, c'est l'image du Christ qui me revenait pour me représenter finalement ce qu'est l'amour, l'éveil plaigné. Donc, est-ce qu'il ne peut pas y avoir finalement une sorte de synthèse entre le bouddhisme et le christianisme qui se fasse dans un second temps? Ou est-ce que vous pensez qu'il y a des symboles complètement différents qui vont émerger dans un bouddhisme occidentalisé?
Vous savez, on dit que le Bouddha a enseigné 84 000 chemins pour 84 000 types de personnalités et de caractères. Le bouddhisme n'est absolument pas dogmatique, absolument pas mono, il n'y a pas un seul chemin. Et il y a une immense flexibilité en fonction, et le bouddhisme s'adapte à la culture dans laquelle il arrive. Pour un chrétien, il est bien évident que cette pratique, par exemple, que je citais de l'amour bienveillant, il va peut-être commencer par invoquer le Christ qui va complètement transformer sa perception et va avoir beaucoup de facilité à libérer cet amour. Et c'est formidable. Ce que le bouddhisme va apporter, c'est qu'il va apporter à l'intérieur de ça une compréhension profonde qui va permettre de ne pas se laisser enliser dans sa propre culture et arriver au-delà. Parce que c'est ça le problème. C'est ça le problème dans les religions, c'est ça le problème partout. C'est-à-dire qu'au départ, on a des symboles, on a une voie, mais après, on s'attache au chemin. Au lieu de regarder, le doigt montre la lune, mais on se fixe sur le doigt et
oui,
on oublie la lune.
On privilégie le moyen et on oublie la fin.
On se met à adorer une écriture au lieu de la pratiquer, etc. Et ça, c'est vraiment un des principaux problèmes. Donc, je pense que le bouddhisme est là pour permettre à chacun de suivre sa voie en le libérant des différents attachements.
Toutes les formulations, les représentations, on va dire. À la fois imaginaire et créé par le langage.
Et pour aller dans le sens de Frédéric Lenoir, mais plutôt dans un sens pratique, vous parlez beaucoup de la pratique, justement de la pratique de l'amour, c'est-à-dire en ce qu'on appelle en termes chrétiens la charité, s'occuper des autres, les soulager de leurs souffrances, etc. Mais il me semble que nous avions, je ne sais pas, il y a un ou deux ans, dans une précédente émission, nous avions évoqué l'idée que c'est très chrétien, en réalité, par exemple, de faire des hôpitaux, de faire des dispensaires, vraiment de chercher à soulager la souffrance physique des pauvres, des malades, etc. Ça, c'est pas, disons, dans la ligne traditionnelle, dans l'histoire du bouddhisme, pour lesquels, si j'ai bien compris, parce que Frédéric est beaucoup plus spécialiste que moi, en fait, la compassion s'applique en donnant le savoir. Ce qui compte, c'est nourrir la personne en savoir, pas forcément nourrir son corps, ou etc. Et là, dans votre livre, vous semblez dire que, en réalité, le bouddhisme moderne occidental a quand même intégré ces valeurs du christianisme qui sont de soulager aussi les corps.
Mais ça est toujours présent dans le bouddhisme. Je pense que c'est une idée un peu limitée du bouddhisme de croire qu'il ne donne que le savoir. Dans tous les pays bouddhistes, les maîtres ont essayé, les institutions ont essayé de soulager le peuple et d'aider même matériellement. Et à l'heure actuelle, par exemple, dans tous les pays du monde, qu'ils soient orientaux ou occidentaux, il y a énormément d'œuvres bouddhistes.
Oui, là, oui, à l'heure actuelle.
Ça, c'est moderne. C'est vrai que dans l'histoire, le bouddhisme n'a pas développé du tout des œuvres charitables comme l'ont fait d'autres institutions religieuses.
Je pense que là,
c'est le bouddhisme
justement,
occidental qui le fait.
Là, je pense qu'il y a une rencontre avec la modernité qui est passionnante. Parce qu'en fait, moi, je sais qu'à la suite, vu mon origine, ma famille d'origine, je suis de toute façon mue vers une aspiration très forte sociale. C'est vraiment en moi. Et avec le bouddhisme, j'ai trouvé les moyens qui me permettait que ça fonctionne, alors qu'avant, ça ratait tout le temps. Et ça, disons que je crois que c'est vraiment un élément fondamental du bouddhisme moderne, c'est qu'il va allier l'aspect humanitaire, mais en même temps, il ne faut jamais oublier que dans le bouddhisme, on parle de la souffrance et des causes de la souffrance. À quoi bon aussi s'occuper uniquement de la souffrance si on n'enlève pas les causes? C'est là que je trouve que le bouddhisme est extraordinaire, c'est qu'il a compris quelle était la racine de notre souffrance. Et il peut libérer une bonne fois pour toutes des causes. Et à ce moment-là, si vous voulez, la souffrance ne se produira plus. Et c'est quand même ça le but principal.
Vous êtes sur France Culture dans l'émission Les Racines du Ciel en compagnie d'Olivier Rourich. Nous parlons du bouddhisme au quotidien à l'occasion de la sortie de son ouvrage La Voix du bouddhisme au fil des jours chez Albin Michel. Alors là, on était en train de parler du cœur du problème, c'est-à-dire quelles sont les causes de la souffrance et que le bouddhisme cherche, est une voie spirituelle qui cherche effectivement à enlever les racines du mal, les racines de la souffrance qui sont dans l'esprit humain. Oui. Et j'aimerais que là, qu'on aille un peu plus loin effectivement dans cette dimension philosophique. Quel est effectivement pour l'enseignement du Bouddha la racine profonde de la souffrance?
Ça, c'est vraiment très intéressant. C'est-à-dire que ce que le Bouddha a dit, c'est que la racine de la souffrance, c'était la fixation sur l'idée fausse d'un moi. Et ça a été une découverte extraordinaire pour moi, parce que dans ma culture occidentale, le moi existait substantiellement. J'étais moi, c'était clair. Et en fait, dans le bouddhisme, on vous dit toute l'idée que vous avez de vous, moi, Olivier, mon âge, ma forme, mes projets, ce sont simplement des idées, justement. C'est simplement des choses qui changent d'ailleurs constamment et qui sont une sorte de représentation mentale de soi dans son monde. Et en réalité, d'ailleurs, au moment de la mort, tout ça se dissout complètement, disparaît. Et cette fixation sur notre représentation de nous-mêmes est la cause de la souffrance. Et ça, ce n'est pas de la théorie, ce n'est pas de la philosophie. On peut le voir tout le temps. Regardez quelle insécurité génère l'image du soi dans nos sociétés. Et donc, ce que le bouddhisme vous dit, c'est lâcher cette identité factice à laquelle vous attachez toujours et ouvrez-vous à la possibilité d'une dimension plus vaste de vous-même. Et à ce moment-là, ce qui est miraculeux, c'est que si on peut le faire instantanément, la libération peut être là. Et c'est un peu comme quelqu'un qui serait obsédé par une idée fausse alors qu'il est en réalité libre. Donc c'est un peu ironique. Et ça, ce relâchement de la fixation sur l'idée fausse d'un soi, c'est quelque chose qui, je crois, est unique au bouddhisme et qui est incroyablement libérateur.
Au bouddhisme et à l'hindouisme, parce qu'on retrouve aussi, c'est la tradition de l'Inde. Mais effectivement, c'est un point capital. Mais pour que nos auditeurs comprennent bien, qu'est-ce qu'il y a de plus profond que le moi auquel on s'attache? Quelle est l'identité profonde de chacun d'entre nous si cette identité la plus profonde, ce n'est pas l'ego, la personnalité donc à laquelle on s'identifie?
Les maîtres disent, si vous lâchez prise de votre identité ordinaire, vous perdez les nuages, mais vous gagnez le ciel. Et je trouve que c'est une image magnifique. En fait, on est obsédé par il y a des gens qui regardent la météo tout le temps, vous savez, on est obsédé par le temps qu'il fait aujourd'hui. On regarde les nuages, il y a un petit rayon de soleil, etc. Mais on ne se rend pas compte qu'au-delà des nuages, quand on lâche les nuages, eh bien, en fait, il y a un ciel infini et un soleil incroyable. Et ça, c'est quelque chose qu'on va découvrir. C'est encore une fois, comme toujours dans le bouddhisme, il n'y a pas besoin d'y croire, on le découvre. Et concrètement, comment on le découvre? C'est quand on lâche prise de cette identité, on se rend compte qu'on est beaucoup plus heureux. D'ailleurs, regardez dans la vie, si vous êtes obsédé par un problème, vous voulez absolument gagner quelque chose, vous voulez prouver que vous avez raison, puis à un moment, vous lâchez prise. Ça ne marche plus, vous abandonnez, vous lâchez. Il y a un soulagement incroyable. On croit qu'on a perdu, et en réalité, qu'est-ce qu'on se sent bien? On est toujours là. Finalement, on cesse de se battre, on cesse d'être en lutte. Et en fait, là, il y a une dimension beaucoup plus vaste de l'être qui est toujours disponible. Et ça, mais je dirais que ça, c'est vraiment la pratique du bouddhisme qui va nous la faire toucher progressivement.
C'est la pratique du bouddhisme et puis la pratique, comme vous dites, au quotidien du lâcher-prise.
Du lâcher-prise,
pour ne pas effectivement en permanence se sentir menacé par ce qui arrive. Quand quelqu'un vous agresse, vous dites « c'est pas moi qui l'agresse ». C'est de lâcher l'ego.
Et faire confiance à une dimension plus grande. C'est ça aussi qui est important. Bon, pour les chrétiens, ce sera le Christ ou la dimension divine, mais en fait, peu importe le nom qu'on lui donne.
Oui, le bouddhisme sera la nature du Bouddha, chacun nomme cette identité profonde autrement.
Mais si vous voulez, moi, ce que le bouddhisme m'a apporté, c'est la confiance qui me permet de lâcher. Et ça a été formidable. Je le vois familialement, je le vois professionnellement, je le vois dans toutes mes interactions. À un moment où je pourrais me sentir agressé, où je pourrais me sentir menacé, je lâche. Je lâche et à ce moment-là, quelque part, j'arrive dans un espace d'harmonie. Maintenant, c'est difficile de faire ça. Au début, surtout. Et c'est là que des pratiques comme l'amour bienveillant, et quand on ne sait pas comment lâcher...
C'est l'amour qui aide dans la confiance.
C'est l'amour qui aide. Donc si par exemple vous êtes agressé par quelqu'un, vous sentez qu'il est nerveux, qu'il est mal et qu'il est en train de vous agresser, si vous répétez silencieusement ces phrases, puisses-tu être heureux, puisses-tu être bien, puisses-tu être en sécurité ? Déjà, vous cessez de vous identifier à cet ego, un peu ce combat de coq qui s'amorce. Hein, et en réalité, ça vous permet d'envoyer de l'amour. Et en se reliant au fil d'amour qui est en nous, on va être conduit. C'est un peu comme si on chevauchait un rayon du soleil pour retrouver le soleil. On est conduit subtilement à une dimension plus vaste. Et là, quand on peut lâcher, c'est merveilleux, parce que ce que disait toujours Segal Rinpoche, c'est en fait, on s'accroche parce qu'on a peur de ne pas avoir, mais c'est en lâchant prise qu'on a.
Mais alors, justement, là, je ne suis pas sûre, pour avoir tenté ce genre de pratique, que l'amour puisse être premier. Il me semble, et vous y faites allusion d'ailleurs, mais vous passez assez vite dessus, donc j'aimerais bien que vous y reveniez. Il me semble que la question de la connaissance et de la lucidité est un peu plus efficace, disons, dans l'immédiat, parce que l'amour, c'est quand même quelque chose qui n'est pas si facile à acquérir. Il faut du temps, surtout avec aimer ses ennemis. C'est quand même un principe quasi infaisable. Quand je dis aimer, je veux dire aimer vraiment profondément, réellement, pas s'imaginer qu'on aime. Mais en revanche, et ça m'a beaucoup intéressée, mais vous êtes passé un peu vite, c'est... finalement, l'autre qui m'agresse, peut-être de le voir dans sa réalité. Oui. C'est-à-dire de voir qu'en réalité, tout ça, c'est de l'irréalité. C'est-à-dire toutes ces émotions négatives, etc. Il me semble plus intéressant d'avancer vers la connaissance que, en tout cas, délibérément vers l'amour. Je pense que l'amour vient de surcroît,
il me semble. J'aime beaucoup ce que vous dites, parce qu'effectivement, dans le bouddhisme, ce qu'on pourrait appeler la vertu n'est pas une morale imposée, mais plutôt vient de la connaissance, vient de la compréhension de la nature des choses. Et en fait, la nature des choses, ce qui est dit, c'est que tous les êtres, en fait, sont victimes de l'ignorance. Ils cherchent tous le bonheur, mais dans leur ignorance, ils s'y prennent d'une telle façon qu'ils arrivent toujours à la souffrance. Alors ça, on peut le voir sur soi-même, déjà, ce qui rend humble. Et puis, on peut le penser aussi pour les autres. Et quand on voit quelqu'un qui est mal, eh bien, on va le voir simplement comme quelqu'un qui cherche à être heureux, mais qui, dans son ignorance, en fait, s'y prend d'une telle façon qu'il va acquérir de la souffrance pour lui-même et pour les autres. Et c'est la source de la compassion, ça. C'est pour ça qu'on peut, ensuite, que l'amour va jaillir naturellement. Hein, c'est pas... ça vient du fait qu'on voit l'être comme un être sensible, comme un être... sensible.
Comme un autre soi-même.
Vivant, comme un autre soi-même, exactement. Hein, ça, c'est... On a tellement tendance à voir les autres comme des autres, finalement. Et cette dualité, en fait, comment on peut la surmonter ? On peut la surmonter en voyant l'autre comme un être qui recherche profondément le bonheur, tout comme nous, et qui, tout comme nous, hésite et tâtonne et fait souvent beaucoup d'erreurs. Et ça, c'est très émouvant, en fait, c'est très touchant. Et à ce moment-là, on peut simplement lui souhaiter de se libérer. Et c'est le germe de l'amour dans le bouddhisme.
Bon, je vais encore faire référence à mon grand dessin animé préféré, Kirikou. Vous avez vu Kirikou ?
Votre dessin animé fétiche. Notre dessin animé fétiche.
Oui, c'est vrai. En deux mots, pour ceux qui ne connaissent pas, Kirikou, c'est un dessin animé qui a un grand succès et qui, en fait, est une grande profondeur spirituelle sur cette question-là. Puisque le thème, c'est une méchante sorcière qui tue tout le monde. Mmh. Et tout le monde essaye de se protéger ou de tuer la sorcière. Et puis, il y a un petit enfant qui pose la question, la seule bonne question. Pourquoi est-ce qu'elle est méchante, la sorcière ? Et à la fin de sa quête, il va découvrir qu'elle est méchante parce qu'elle souffre. Elle a une aiguille qui est plantée dans son dos qui l'a fait souffrir. Ouais. Et donc, pour qu'elle soit plus méchante, il ne faut pas la tuer. Il faut enlever la cause de la souffrance.
Voilà, vous avez tout le bouddhisme en une histoire. Hein. C'est tout à fait ça. Ôter. Alors, ce qui est intéressant, parce que le Bouddha se présentait comme le médecin, justement le grand médecin, qui ôte la cataracte de l'ignorance qui empêche de voir. Et en ôtant cette cataracte, c'est-à-dire en montrant la nature de la réalité, eh bien, il va ôter justement ce qui fait souffrir. Et donc, du coup, il va aussi créer l'harmonie par cela même.
Alors, il y a un autre point dont vous parlez dans votre livre. Pour essayer de lâcher prise, de se distancier, l'humour peut beaucoup nous aider. Alors, j'aimerais que vous en parliez.
Oui, alors ça, c'est extraordinaire parce que j'étais entouré, moi, dans ma jeunesse, de gens qui se prenaient très au sérieux. Des intellectuels, qui étaient sentencieux, qui étaient savants, qui étaient experts. Alors, j'ai tout un paragraphe sur les experts dans mon livre, les adultes, celui qui sait, etc. Et quand j'ai rencontré Segal Rinpoche, c'était assez incroyable parce qu'il donnait l'impression à la fois d'une immense maturité, une immense connaissance, et en même temps, il avait un humour d'enfant. Il avait une façon de plaisanter, mais même des plaisanteries pas spécialement subtiles, forcément, des choses qui font rire aux éclats. Et ça faisait un bien fou. Ça faisait un bien fou. Moi, je sais que ça m'a permis... Ça a beaucoup contribué justement à desserrer cette fixation sur le moi. Je sais que je me rappelle d'une fois où j'étais en traduction avec lui dans une grande conférence. Et puis j'avais dit une bêtise, je m'étais trompée dans la traduction. Tout le monde avait ri. Et puis en fait, j'avais éclaté de rire aussi. Et ça m'avait fait un bien fou. Je me dis, mais en fait, on peut rire. Il n'y a pas besoin d'être crispé, d'être sérieux. Et Sogyal Rinpoché, lui, nous recentre toujours sur l'humour. Il a toujours cette espèce de légèreté, si vous voulez, qui fait qu'on ne s'englue pas.
Mais est-ce que l'humour est une conséquence du fait qu'on a déjà un peu lâché et qu'on a de la distance vis-à-vis de soi-même, ou c'est un outil qui peut nous aider à aller dans cette voie-là?
Alors, c'est les deux. Pour ceux qui sont déjà dans un état spacieux, c'est sûr qu'ils vont avoir naturellement, enfin peut-être pas,
comme le Dalai Lama en tout cas. Voilà, il arrive quelque part, voilà. Il éclate de rire, c'est la première chose.
Exactement, exactement. Bon, ça c'est pour les grands êtres, mais pour nous, si on est englué, je sais que dans certaines situations où tout le monde se prend au sérieux, où la situation est grave, une pointe d'humour, quelquefois, ça fait du bien. Et souvent, on l'associe à l'irresponsabilité. Les gens sérieux, quand vous faites de l'humour, quand vous êtes léger, ils vont dire « mais toi, t'es pas un responsable. Moi, j'ai des responsabilités, il faut que je sois sérieux. » Mais l'expérience montre, en fait, qu'on assume beaucoup mieux nos responsabilités avec de l'humour. Parce qu'on a la légèreté, on a l'espace. Alors que si vous commencez à vous prendre pour quelqu'un de très sérieux, d'expert et tout, finalement, ce que vous faites quelquefois n'est pas forcément utile.
Racontez-nous une blague bouddhiste. Histoire drôle. Oui. Qui racontait dans les enseignements,
ouais,
justement
pour. Elle va nous rappeler l'histoire un peu du conte zen d'ailleurs. C'est l'histoire d'un jeune moine zen qui arrive au monastère et alors il va atteindre l'éveil lui aussi d'ailleurs. Et donc, alors il s'assoit en posture parfaite et puis du matin au soir il fait zazen parfaitement, etc. Et puis bon, les vieux moines le regardent d'un air un peu goguenard, bon, air de dire bon, il va bien s'apercevoir de quelque chose. Bon. Puis continue une semaine, deux semaines, trois semaines. Puis de plus en plus, sa posture est de plus en plus parfaite, il a l'air de plus en plus serein. Et à un moment, il appelle son maître et lui dit « Maître, maître, le Bouddha est apparu dans ma méditation. » Alors le maître, c'est un vieux maître qui arrive et qui lui dit, il prend un air plein de compassion et lui dit « Mon fils, continue à méditer et t'inquiète pas, il finira bien par partir. » Et ça, c'est une histoire très importante dans le bouddhisme, parce que ça veut dire qu'on ne va jamais se fixer sur une expérience, se prendre au sérieux, croire qu'on est arrivé à quelque chose. On est toujours à égalité avec tout le monde et on ne se définit jamais comme supérieur aux autres. C'est beaucoup plus qu'une histoire drôle. Enfin, c'est drôle, mais en même temps, c'est profond.
C'est un enseignement, évidemment.
Voilà, c'est un enseignement sous forme de boutade. Mais moi, j'aime beaucoup cette histoire. Vraiment, elle me fait beaucoup de bien.
Oui, en fait, toutes ces histoires zen qui sont absolument délicieuses, enfin, l'histoire tibétaine ou les contes zen, etc. En réalité, c'est l'humour permet de déchirer le continuum, en fait, du réel, d'une certaine façon, et donc de faire entrer en paradoxe. Mmh. Et finalement, on s'aperçoit que dans toutes les traditions d'enseignement, qu'elles soient philosophiques ou spirituelles, le paradoxe, c'est-à-dire que le déchirement de nos illusions, est central.
Tout à fait, parce que souvent dans le bouddhisme, on parle de l'esprit conceptuel qui nous voile la réalité. C'est encore l'histoire des nuages et du ciel. On est dans des concepts, et en Occident, on est vraiment des spécialistes des concepts. Hein. La philosophie occidentale est très conceptuelle. Et donc, on est en fait comme dans une armature de concepts qui seraient comme des plaques, vous voyez, solides, auxquelles on se réfère sans cesse. Et on ne voit pas l'espace, qu'il y a. Et en plus, quand ces concepts viennent évidemment à s'entrechoquer, parce que les autres n'ont pas les mêmes que nous, alors on fait la guerre. Et donc, effectivement, les paradoxes, la poésie, et diverses méthodes comme celle-là. Moi, je crois beaucoup en la poésie, par exemple. La poésie est un moyen extraordinaire d'aller au-delà, justement, des idées limitées et de faire rentrer dans une dimension beaucoup plus vaste. Tout ce qui peut ouvrir l'esprit et relâcher toutes les saisies, toutes les fixations qui rendent notre esprit petit, en fait, est vraiment va dans le sens de l'enseignement.
Alors, pardonnez-moi, après l'humour, de vous poser une question qui est quand même un peu absente de votre livre et qui pourtant me semble très essentielle, c'est la question de la mort. Parce que vous parlez beaucoup du fait que la voie bouddhiste est une saisie du présent, ne pas se préoccuper du passé ni de l'avenir. Et pourtant, on voit par exemple dans le livre des morts tibétains que la grande préoccupation de cette vie, c'est aussi de préparer le passage et de préparer l'autre vie qui viendra après, quelle que soit sa forme.
Tout à fait. Parce qu'en fait, dans le bouddhisme, la mort est vue comme la dissolution de tout ce qui nous limite. En fait, toute notre réalité limitée qu'on perçoit par nos sens, tout ça, ça va se dissoudre. Et en fait, on va arriver juste au moment de la mort à la dimension du ciel, une fois que les nuages se sont complètement évaporés. Et tout le but de la pratique du bouddhisme, c'est justement de préparer cet instant et de pouvoir atteindre cet éveil et y rester. au moment où on l'atteint, au moment de la mort. Mais le problème, c'est que si nos émotions négatives et nos tendances habituelles sont trop fortes, eh bien, elles vont regagner en énergie, reprendre le dessus. Et en fait, ce sont toutes ces habitudes de pensée, toute cette énergie négative qui va se réincarner. Par exemple, si vous avez été quelqu'un d'haineux toute votre vie, il est probable qu'au moment de la mort, même si pendant un instant, il y a une suspension de tout ça, l'énergie de haine va s'emparer de votre esprit de nouveau et va vous emmener dans une incarnation, probablement dans un environnement qui est la manifestation de toute cette haine, donc infernale. Par conséquent, le but effectivement de la pratique bouddhiste, si vous voulez, c'est progressivement de progresser en éveil dans cette vie. Mais c'est vrai que le moment de la mort, pour un pratiquant spirituel, est le couronnement. C'est le moment où toutes ces qualités qu'on a essayé de cultiver, le lâcher prise, l'espace, l'amour, vont trouver leur couronnement. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui meurent dans un état extraordinaire. Pas seulement dans le bouddhisme, mais dans toutes les traditions. Moi, j'ai assisté à quelquefois des gens qui étaient vraiment en fin de vie et qui avaient une sérénité parce que simplement, ils avaient complètement lâché prise. Ils étaient dans l'amour, ils étaient dans la paix. Et de ce lâcher prise complet, eh bien, ça permettait d'entrer dans une dimension de libération.
Et bien, c'est sur cette libération que nous allons terminer cette émission. Je rappelle votre ouvrage « La voie du bouddhisme au fil des jours, être, aimer, comprendre » chez Albin Michel. Merci infiniment Olivier Rorich.
Merci beaucoup.
C'était « Les racines du ciel ». Une émission de Frédéric Lenoir et Lélie Envard. La semaine prochaine, nous recevrons Éric Geoffroy qui nous parlera du soufisme. Je rappelle que cette émission est podcastable pendant un an et réécoutable pendant 1000 jours. Très bon dimanche à tous.